Bonjour, je suis Olivier. Bienvenue dans le podcast de 9NR3. Aujourd'hui, je vais résumer et critiquer le livre, publié pour la première fois en 1924. Les Rois Thaumaturges est un essai historique majeur de Marc Bloch consacré au pouvoir miraculeux attribué aux souverains de France et d'Angleterre. Son objet central est le toucher des écrouelles pendant des siècles. Des malades ont cru qu'un contact du roi pouvait guérir cette affection des ganglions, souvent associée à la tuberculose. Bloch ne traite toutefois pas ce rite comme une simple curiosité médiévale, ni comme une fraude à dénoncer. Il cherche à comprendre les conditions sociales, religieuses et politiques qui ont rendu cette croyance durable et crédible. Par une enquête comparative fondée sur des chroniques, cérémoniales, témoignages et traditions populaires, il reconstitue la formation d'une monarchie dotée d'un prestige sacré. L'ouvrage dépasse ainsi l'histoire des institutions, il analyse les représentations collectives qui font du pouvoir royal une réalité à la fois politique et surnaturelle. Précurseur de l'histoire des mentalités et de l'anthropologie historique, ce livre éclaire les mécanismes historiques de la croyance et de la légitimation. Je vais vous présenter les points clés de ce livre. Premièrement, le toucher des écrouelles comme problème historique, et non comme simple superstition. Le point de départ de Bloch est une pratique précise, les rois de France et d'Angleterre étaient réputés guérir les écrouelles par l'imposition des mains. Les écrouelles désignaient alors de manière assez large des affections ganglionnaires, ce qui interdit de lire trop littéralement les descriptions médicales anciennes. Bloch ne cherche donc pas à établir rétrospectivement l'efficacité clinique du rite. Sa question est plus exigeante: pourquoi des populations, des malades, des cours et parfois des autorités ecclésiastiques ont-ils pu tenir cette guérison pour vraisemblable ? Le phénomène ne se réduit ni à la naïveté des patients, ni à une manipulation unilatérale du pouvoir. Il suppose des attentes de guérison, des formes de piété, la visibilité publique des cérémonies et la répétition de témoignages considérés comme probants. Certaines rémissions spontanées pouvaient naturellement renforcer la réputation du miracle. Surtout, l'interprétation collective de ces cas leur donnait une force durable. En étudiant la croyance plutôt que son seul degré de vérité médicale, Bloch transforme un détail cérémoniel en objet d'histoire sociale. Le toucher devient un observatoire des rapports entre expérience individuelle, langage religieux et autorité monarchique. Cette démarche évite le mépris anachronique. Comprendre une croyance passée signifie restituer les raisons historiques de son efficacité symbolique. Deuxièmement, deux traditions royales comparées: France, Angleterre et circulation des modèles sacrés. L'un des apports décisifs du livre tient à sa méthode comparative. Bloch confronte les monarchies françaises et anglaises sans les confondre. En France, le toucher des écrouelles est attesté autour des règnes de Philippe Ier et de Louis VI. En Angleterre, le rite apparaît plus tard, bien que la tradition ait volontiers projeté son origine sur Édouard le Confesseur. Ces décalages de chronologie comptent, ils montrent que le pouvoir guérisseur n'est pas une propriété immuable de toute royauté, mais une construction historique. Chaque dynastie doit l'inscrire dans ses propres récits de continuité, de sainteté et d'élection divine. L'Angleterre développe en outre la pratique des anneaux médicinaux, ou cramp rings, associés notamment aux crampes et à l'épilepsie. La comparaison permet donc de repérer à la fois des emprunts, des rivalités et des adaptations nationales. Les deux royautés partagent un même horizon chrétien où le contact avec le sacré peut produire guérison et protection. Elles n'organisent pas pour autant ce merveilleux de façon identique. Bloch refuse ainsi les explications exclusivement nationales. Il étudie les échanges à travers la Manche, le poids des traditions politiques et la manière dont des pratiques analogues servent des dynasties concurrentes. L'histoire comparée devient ici un moyen de distinguer les structures communes des circonstances propres à chaque royaume. Troisièmement, la sacralité monarchique, une ressource de légitimation politique et dynastique pour Bloch. Le toucher royal ne constitue pas seulement un geste charitable accompli devant des malades. Il contribue à définir ce qu'est un roi. En accomplissant publiquement une guérison attendue comme miraculeuse, le souverain manifeste qu'il bénéficie d'une grâce exceptionnelle, distincte de celle des sujets ordinaires. Cette singularité renforce sa position au sein d'un ordre chrétien où l'Église, les saints, les reliques et les rites donnent une importance concrète au signe du sacré. La formule traditionnelle associant l'action du roi à la guérison voulue par Dieu est révélatrice, elle ne fait pas du monarque un dieu, mais l'intermédiaire privilégié d'une faveur divine. Cette nuance permet à la croyance de soutenir l'autorité royale tout en restant formulée dans un vocabulaire religieux acceptable. Le rite possède aussi une portée dynastique. Son ancienneté proclamée, son association à certains ancêtres royaux et sa répétition lors des règnes successifs donnent l'image d'un privilège héréditaire. Dans les périodes de fragilité politique, cette continuité peut être particulièrement utile à la propagande monarchique. Bloch montre néanmoins que la légitimation ne fonctionne jamais par décret, le cérémonial doit rencontrer une croyance partagée. Le pouvoir symbolique du rite dépend donc de l'interaction entre la mise en scène de la royauté, les attentes des malades et les cadres religieux qui rendent le miracle intelligible. Quatrièmement, erreur collective et la force historique du témoignage accumulé. L'expression d'erreur collective, associée à l'analyse de Bloch, ne signifie pas que les sociétés anciennes seraient incapables de raisonner. Elle désigne plutôt une croyance socialement produite et continuellement confirmée. La persistance du miracle royal repose sur ce que l'historien appelle le témoignage accumulé des générations, si des parents, des voisins. Des chroniqueurs et des institutions répètent qu'un pouvoir a toujours existé, cette ancienneté devient elle-même un argument. Le passé transmis ne sert pas simplement de mémoire. Il produit de l'autorité. Les cérémonies du toucher, les récits de guérison et l'affluence des malades créent alors un cercle de validation. Plus le rite est public et ancien, plus il paraît légitime. Plus il paraît légitime, plus les personnes touchées ou leurs proches peuvent interpréter une amélioration comme confirmation. Cette analyse fait de la croyance un fait historique actif. Elle organise des déplacements, des attentes, des récits et une représentation particulière de la souveraineté. Bloch attire ainsi l'attention sur les médiations concrètes par lesquelles une idée se maintient pratique répétée, autorité reconnue, images, textes et mémoire familiale. La disparition progressive de la foi dans le pouvoir guérisseur montre inversement que les croyances ne s'effacent pas parce qu'une démonstration rationnelle les réfute une fois pour toutes. Elles perdent leur prise lorsque les institutions, les sensibilités religieuses et les manières d'interpréter le monde se transforment. En dernier lieu, une enquête fondatrice pour l'histoire des mentalités et l'anthropologie historique. Les Rois Thaumaturges est souvent présenté comme un livre précurseur parce qu'il élargit le travail de l'historien au-delà des lois, des batailles et des décisions de gouvernement. Bloch mobilise des sources variées afin d'étudier non seulement les actes des souverains, mais aussi les croyances qui leur donnent sens récit, cérémonial, tradition, objet de dévotion, pratique de médecine populaire et représentation du sacré. Cette diversité documentaire répond à une idée méthodologique forte, une institution politique ne peut être comprise uniquement par ses textes juridiques. Il faut aussi reconstruire les catégories mentales des personnes qui y participent ou qui y croient. L'historien ne traite pas les mentalités comme une essence immobile des peuples. Il suit au contraire leurs transformations, leurs emprunts et leurs contradictions à travers une longue durée. Son recours à la comparaison, notamment entre France et Angleterre, prévient les conclusions trop rapides fondées sur un seul cas national. L'ouvrage annonce ainsi plusieurs orientations associées à l'école des annales « Attention aux structures sociales ». Dialogue avec les sciences humaines et intérêt pour les pratiques ordinaires autant que pour les élites. Sa méthode conserve une leçon importante expliquée, une croyance ne revient ni à l'adopter ni à la ridiculiser. C'est analyser les conditions qui la rendent pensable, transmissible et efficace dans une société donnée. Cette exigence distingue l'enquête de Bloch d'une histoire purement événementielle ou d'une simple histoire des idées. En conclusion, les Rois Thaumaturges s'adressent d'abord aux étudiants, chercheurs et lecteurs déjà familiers des essais historiques exigeants. Il intéressera particulièrement les personnes qui travaillent sur le Moyen-Âge et l'époque moderne, l'histoire de la monarchie, les rapports entre religion et politique, ou encore la formation des croyances collectives. Sa lecture demande de l'attention, l'érudition de Bloch, l'ampleur chronologique de l'enquête et la précision de ses distinctions ne relèvent pas de la vulgarisation rapide. Cette difficulté est aussi son principal bénéfice intellectuel. Le livre apprend à remplacer une question superficielle « Le miracle était-il vrai ?» par des interrogations plus fécondes sur les conditions de possibilité, les usages sociaux et les effets politiques d'une croyance. Par rapport à une histoire traditionnelle des rois ou des institutions, l'ouvrage se distingue par son changement d'échelle et d'objet. Un rituel de guérison apparemment marginal devient la voie d'accès à une conception entière de la souveraineté, par rapport à des études générales sur le sacré monarchique. Bloch se singularise aussi par l'attention portée aux preuves concrètes, aux variations nationales et à la longue durée du phénomène. Il ne réduit ni les malades à des dupes, ni les souverains à de simples imposteurs. Il analyse une relation collective dans laquelle cérémonie, attente, mémoire et autorité se renforcent mutuellement. C'est pourquoi ce classique demeure utile bien au-delà de son sujet précis, il fournit des instruments pour étudier comment les pouvoirs politiques acquièrent une apparence. D'évidence, comment les traditions deviennent crédibles et comment les sociétés transforment des signes symboliques en réalité agissante. Si vous souhaitez soutenir Marc Bloch, vous pouvez acheter le livre via le lien Amazon que j'ai fourni dans la description du podcast. Après avoir lu le livre, faites-moi savoir ce que vous en pensez et partagez vos réflexions. À bientôt.